Une fois par mois, dans l'Union, un récit dans lequel on donne la parole à un Européen ou une Européenne afin qu'il ou elle nous livre un témoignage, une anecdote, un récit qui met en avant ce que peut incarner l'Europe pour lui ou elle dans ce qu'elle peut avoir de bon comme de négatif. Y a-t-il une mémoire collective européenne? Quels sont les souvenirs liés à l'Union Européenne et quelle expérience les 15-35 ans font-ils de l'Europe en 2022? Ayant grandi en France, j'ai appris dans un premier temps dans ma famille, puis à l'école, l'importance de l'Union Européenne, gigantesque projet de paix réparateur des blessures de la Seconde Guerre mondiale et à l'origine de réformes libérales et sociales. Habitant aujourd'hui à Bruxelles, je me suis, pendant plus de 20 ans, défini comme un Européen convaincu, pur et dur, qui, au grand jamais, ne pourrait remettre en cause les bienfaits de la Sainte Union. Mais au fil de rencontres avec les gens de ma génération, lors de voyages, de promenades, de pendaisons de crémaillère ou de verres au comptoir de bar, une question revenait sans cesse. À quoi sert réellement l'Europe? Comment peut-elle aussi mal communiquer de telle manière que ces 447 millions de ressortissants et ressortissantes puissent à ce point ne rien savoir ni comprendre de ses agissements? Je me suis donc dit que raconter son expérience faite de l'Europe, c'était mettre en avant ce qui fonctionnait, mais aussi pointer du doigt les absurdités d'un territoire que nous partageons tous et toutes. C'est raconter toutes les situations, plus ou moins banales, de la vie quotidienne dans laquelle nous, génération Y et Z, interagissons avec l'Union Européenne. Chaque mois, la parole est à trois jeunes, afin qu'ils et elles nous témoignent de leur expérience faite de l'Europe, en paroles et en chansons, en nous racontant une anecdote de leur choix.
Je m'appelle Margot, j'ai 25 ans et je suis franco-colombienne. Là, j'habite à Bruxelles depuis 3 ans. Et sinon, je viens de Paris. J'ai fait toute ma scolarité dans un système espagnol à Paris. Donc en fait, c'est rigolo parce que tous mes copains à l'école, au lycée et au collège, en fait, c'était que des hispanophones, donc des Espagnols ou bien des gens qui venaient d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale. Du coup, c'était rigolo parce que j'étais à Paris un peu comme une touriste quoi, pendant mes années de collège-lycée. Et quand on a eu notre bac avec mes meilleures copines, on a décidé de faire un voyage ensemble et de partir en Interrail, donc faire un voyage en Europe. En fait, t'achètes un billet qui te permet de voyager en prenant tous les trains en Europe. Et c'est genre un forfait, quoi. On s'était dit, on va voir plein de pays. Enfin, on était hyper ambitieuses. Du coup, on avait pris un billet de un mois. Du coup, on pouvait prendre tous les trajets qu'on voulait, mais seulement les trajets, en fait, étaient inclus. Les trains régionaux, il n'y avait pas ceux de grande vitesse. Du coup, en fait, on s'est retrouvés à passer énormément de temps dans le train, et un peu moins dans les villes, mais c'était quand même assez rigolo parce qu'on a rencontré plein de gens drôles dans les trains. Je suis partie avec 4 filles, du coup, et moi, donc on était 5. Donc il y avait Alba, qui est franco-espagnole, mais qui a vécu presque toute sa vie au Luxembourg et qui est venue après à Paris, et c'est là où je l'ai rencontrée. Après, il y avait Anna, qui, elle, vient de Madrid. Après, il y avait Flore, qui, elle, est argentine, mais ses grands-parents sont allemands, du coup elle avait la nationalité allemande. Et après il y avait Inès qui, elle, était espagnole. Une fois, on était dans le train et on partait de Belgrade au Monténégro. Et c'était un train très long, je me souviens, il durait genre 15 heures, un truc comme ça, ou 16 heures. Enfin, du coup, il y avait une partie dans la nuit, enfin, c'était un train de nuit, quoi. Et bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, bah, en fait, bah, évidemment, nous, on parlait pas le serbe. Et les Serbes ne parlaient pas anglais. Et en fait, le train dans lequel on est monté là pendant 14 heures pour aller au Monténégro, en fait, c'était un ancien train français. Tout était écrit en français. C'était les trains wagon-couchette, là, en cuir, un peu comme dans les films, dans lequel il y avait 3 couchettes l'une au-dessus de l'autre, et c'était des compartiments de 6 couchettes. Et avec un grand couloir. Et je me souviens que quand on est rentré dans le train, tout le monde fumait dans le train. Et tout le monde était en train de boire des bières et fumer. Et je sais pas, ça m'a fait trop impressionner avec les filles. On était en mode, mais c'est trop bizarre. Et tout était écrit en français alors qu'on était perdu en Serbie et que personne ne parlait l'anglais. Du coup, c'était assez marrant. Comme d'habitude, on s'était pris au dernier moment. Du coup, on n'avait pas réservé nos couchettes à l'avance. Et en fait, on s'était retrouvés séparés. Donc, où il y en avait trois qui dormaient dans une couchette et trois qui dormaient dans l'autre. Bref, au final, on s'endort sur nos gardes, entre guillemets, parce qu'on dormait avec d'autres personnes. Et à 4h du matin, le train s'arrête et il y a la police du Monténégro qui monte, parce qu'en fait, on venait de passer la frontière, et qui réveille tout le monde en hurlant « Passeport ! Passeport !» Et du coup, bah, nous, on se réveille avec ma copine Alba, on était dans la même couchette. Et du coup, on donne notre passeport. Et à ce moment-là, y a une femme qui était aussi dans la couchette avec nous, qu'on ne connaissait pas, qui a commencé à jeter des sacs sur la couchette d'Alba. Et nous, on dit « Mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là ?» et tout. Du coup, Alba, elle a rejeté les sacs en mode « C'est pas à moi, tu vois. » Juste au moment où il y avait les flics. Qui arrivent et tout, ils embarquent la dame, enfin tout ça en criant en serbe, mais nous évidemment on comprenait rien, et ils la laissent à l'extérieur, genre nous on la voit sur le quai, ils ont abandonné la dame à la frontière quoi. Du coup nous on commence à demander à tout le monde, ouais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils ont abandonné la dame, qu'est-ce qu'elle a fait et tout, machin. Mais bon évidemment personne parlait anglais, donc ils étaient juste en mode, ils essayaient de nous expliquer avec des gestes mais on comprenait rien. Du coup, bref, on se rendort et le lendemain, on a enfin trouvé quelqu'un dans le train qui parlait anglais. Et du coup, il a demandé, machin, et après, en fait, il nous a expliqué que cette dame, c'était une trafiquante de tabac de la Serbie au Monténégro et en fait, qu'elle faisait passer des cigarettes d'un côté à l'autre de la frontière parce que bah, d'un côté, c'était plus cher que de l'autre, quoi. Sauf qu'en fait, c'était interdit et qu'elle risquait 6 mois de prison. Du coup, on était en mode, ah, ok, d'accord. Après, le train est finalement enfin arrivé à la gare. Et donc, on a pris nos affaires et on allait descendre du train quand on se rend compte qu'il y a un sac qui reste dans notre couchette et qu'il n'y a aucune personne de notre wagon. On commence à leur demander, oui, est-ce que c'est à vous ? Il y a un sac qui est tout seul. Est-ce que vous avez oublié votre sac et tout ? Et tout le monde dit, bah non, c'est pas mon sac et tout. Bon, bref. Du coup, finalement, je sais pas comment, mais Alba a eu l'idée d'ouvrir le sac. Et en fait, bah, c'était un des sacs de la trafiquante de tabac parce qu'il y avait genre, je sais pas, 15 ou 20 cartouches de cigarettes, même plus. Genre le truc était rempli. Il y avait des Marlboro, des Lucky Strike, et des Philip Morris. Et du coup, là, c'était marrant parce qu'on a commencé à dire à tout le monde, ouais, c'est du tabac et tout. Et il y avait tous les gens du train qui sont du coup venus prendre des cigarettes. Donc c'était rigolo, on faisait grave la répartition. Du coup, ça nous a rapprochés avec eux alors qu'on parlait pas la même langue. Et nous, du coup, on a pris plein de clopes parce qu'on était toutes fumeuses. On avait pris, je sais pas, au moins genre 5 cartouches par personne, un truc comme ça. Voilà, après, on a essayé de pas en prendre trop parce qu'on s'est dit, si on se fait arrêter pour trafic de tabac au Monténégro, on risque 6 mois de prison. Du coup, je sais plus, on avait regardé la limite légale et on avait pris chacune la limite légale. Et pendant tout le reste du voyage, on n'avait pas acheté de cigarettes. Et même pendant longtemps après, on n'avait pas acheté.
je m'appelle Paulo, je suis d'origine portugaise et ça fait quelques années que j'ai quitté un petit peu le Portugal pour me faire balader un petit peu dans le monde, pas seulement dans l'Europe, mais à l'extérieur aussi. À l'époque, je faisais mes études en Angleterre et en finissant, j'ai trouvé un travail à Dublin. Et voilà, je suis passé de Londres à Dublin et en cherchant d'appartements. Finalement, j'avais besoin de vivre au nord de Dublin. Donc c'est pas vraiment le centre-ville, donc c'est plus facile de trouver des maisons et pas d'appartements. Donc il y a toujours le petit jardin, des maisons avec plusieurs chambres. Alors, on avait quatre chambres, donc on pouvait être quatre colocataires. Et en cherchant à gauche et à droite, tout d'un coup, on avait quatre personnes de quatre nationalités différentes. Un Irlandais, un Italien et moi, et en français. J'ai vécu pendant 2 ans, je crois. C'était une grande maison avec un petit jardin qui finalement a fait beaucoup de barbecue aussi pendant l'été. Tout le monde pensait que moi, comme portugais, je mangeais énormément de la morue, des sardines. Et le petit Italien adorait la pizza avec beaucoup de fromage. Donc c'était intéressant parce que chaque fois qu'on se réunissait autour de la table, dans le salon, dans la cuisine, dans n'importe, avec des bonnes bières irlandaises, tout le monde parlait exactement de la morue, les sardines et la pizza pour le pauvre Italien. Les gens qui étaient extérieurs à la maison ne le savaient pas. C'est que moi, je suis végétarien, j'étais toujours végétarien. Je n'ai jamais mangé d'animal de ma vie, je crois. Voilà, donc chaque fois qu'on se faisait, par exemple, un barbecue, tout le monde venait disant « Ah, Paulo, on a oublié les sardines. » Moi, j'étais très content parce que je ne sais même pas comment cuisiner ça. Et dans le colocataire italien, il détestait le fromage. Donc, il ne pouvait pas manger la pizza. Et c'est très marrant parce qu'on discutait. Donc, lui, il ne pouvait pas supporter l'odeur du fromage. On avait un grand problème à la maison parce que le français, lui, il aimait bien le fromage et il mangeait tout le temps. Un bleu, toujours bien foncé dans le frigo, mais ça nous a amené un petit problème. On ne pouvait pas avoir ce fromage dans le même frigo de tout le monde parce que l'autre il pouvait pas sentir, donc chaque fois qu'il ouvrait la porte du frigo, il était toujours en choc. Il disait toujours mon ami le français, tu as amené le fromage encore. Donc on s'est acheté un petit frigo que pour le fromage que pour le fromage français. Finalement, moi j'adore le fromage aussi. Heureusement, on n'a pas acheté un frigo que pour le poisson, parce que ça me fait rien l'odeur, le sentir du tout. Donc, chaque fois qu'on disait on va faire quelque chose à la maison, on va faire un repas à la maison, on invitait des amis, des collègues, on disait toujours les amis, pas de fromage, pas de poisson. Parce qu'il y a un Italien et un Portugais à la maison. Donc ça, c'est marrant parce que tout le monde disait pourquoi. N'amenez pas ça parce qu'on ne mange pas ça ici. C'est marrant parce que moi, finalement, je ne connais pas vraiment beaucoup de Portugais qui ne mangent pas de la morue ou des sardines ou de poisson en général. Et c'est intéressant parce que j'ai trouvé pas mal d'Italiens qui ne mangent pas de fromage du tout. Donc la pizza, c'est interdit, le parmigiano sur les pâtes, c'est interdit. Et donc c'était super marrant raconter, je crois, toutes ces petites histoires, mais que ce qui m'a vraiment resté, c'était avoir ce deux mecs qui représentent très mal leur pays, qui mangent pas de poisson, mais de la pizza. Et je crois que par contre, l'Irlandais, on avait toujours la bonne Guinness à la maison, ça et voilà notre stéréotype.
Bulgare, mais depuis 2006, j'habite en Belgique. Je suis arrivée avec ma mère en octobre 2006, avant que la Bulgarie rentre dans l'Union européenne, parce qu'elle travaillait sur le contrat d'adhésion de la Bulgarie. J'étais à l'école européenne de Bruxelles, à Uccle, et après, sur un coup de tête, j'ai décidé de partir pour la France pour faire du droit, parce que je voulais plus rester à Bruxelles, parce que je me suis dit, j'ai tout vu, je voulais aller quelque part d'autre. Du coup, je suis partie sur Paris, et là, de Paris, j'ai fini mes études, j'ai obtenu mes deux masters de droit, et cette histoire se passe pendant ma troisième année de licence, où j'ai rencontré une Française. Mmh. Et du coup, avec cette amie, on a décidé sur un coup de tête de faire un été, un petit tour en train jusqu'à l'Italie. C'est là que commence l'histoire, on prend le train, on s'arrête dans plusieurs villes de France, on les visite. On arrive à Milan, et de Milan, on doit se débrouiller pour trouver le train jusqu'à Genoa, je ne sais pas si je le dis bien en français. Ah oui, une petite précision, ni moi ni ma pote, on parle italien. Oui, j'étais dans une école européenne où il y avait des Italiens, mais les seules choses que je connaissais en italien, c'était bonjour, au revoir, voilà, toutes les pasta, pizza, toutes les mots habituels. On descend à Genoa et là, il y avait une autre pote de mon ami qui nous attendait pour qu'il nous amène dans une petite village à plus loin que Genoa. Cette amie, elle a fait un Erasmus dans une fac australienne qui était située en Italie. Et on reste 3-4 jours, on s'amuse, on visite. Et du coup, il arrive le jour de partir. Là, on arrive à Genoa, mais on a loupé notre train. Et c'était le dernier train pour Milan. Oui, les gens à Genoa parlent un peu anglais, mais c'est pas une folie. On se dit, qu'est-ce qu'on va faire les filles? Qu'est-ce qu'on va faire les filles? On dit, bah, allez-y, on va chercher un hôtel. Je ne sais pas pourquoi, mais on n'avait pas trouvé un hôtel avec une chambre. Parce qu'après, il faut dire qu'on était des étudiants. En L3, moi, j'avais 21 ans, pas un grand budget. Tout ce que tu avais économisé par les jobs étudiants. Du coup, on n'avait rien à faire. On avait loupé le train. On avait un peu d'argent pour le train. Pour ne pas louper notre train de Milan qui partait pour la France. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Je me dis, bah, écoutez, les filles, il fait chaud. C'était genre les 40 degrés en Italie. Il fait chaud, les filles. Quitte à aller se prendre une bouteille de vin ou de quelque chose, rester sur la plage jusqu'à le train. Et le prochain train, bon, je pense que c'était vers 21h. Et le prochain train, c'était à 6h, 7h du matin. Et c'est pas une ville où il y a des boîtes ou des bars ou quelque chose où pour aller fêter. On prend cette bouteille de vin. On va à la... Ça commence à la plage. On boit à la plage, on joue, on rigole. Voilà. On a bu 1, 2, 3 bouteilles de vin. Et on était fatigués. Il commençait de faire un peu froid. Du coup, on a sorti nos serviettes. Et il faut bien savoir, on n'a que notre... Comment ça s'appelle? Nos shorts, nos débardeurs. On n'avait pas plus de choses. Et là, moi, je dis, bah, écoutez, les filles, je suis trop fatiguée. Je vais me coucher. Elle me dit, mais non, on ne peut pas dormir sur la plage. Parce qu'il faut savoir que quand tu dors sur la plage, le sable, il est mouillé. Je ne sais pas comment, mais quand tu te réveilles le matin, tu ne peux pas bouger. Tu es limite gelée, tu ne peux pas bouger. Du coup, je dis, mais les filles, quitte à aller à la gare et dormir à la gare. On ne va pas faire ça, on ne va pas dormir à la gare, on ne fait pas ça. Moi, je dis, mais on va avoir froid si on reste dehors. Elle dit, non, il fait chaud, il fait chaud. Du coup, on s'est mis un peu à côté de la gare. Il y avait deux bancs. Et moi, je dis, bon, les filles, moi, je vais dormir. Et le truc, on s'est dit, il y a deux qui dorment et une qui surveille. Comme ça, on ne se fait pas voler nos affaires. Et du coup, à un moment donné, la pote de ma pote, quand c'était à elle de surveiller nos affaires, elle était endormie. Elle s'était endormie. Et du coup, là, à 6h du matin, c'était deux vieilles personnes. Ils commencent à nous parler en italien. Et nous, on est quoi? Et on ne comprend pas. Ils disaient quelque chose. Pour nous, c'était, est-ce que vous avez besoin d'aide? Mais vraiment, ils nous approchaient. Ils avaient peur de nous parce que nous, on était trois filles accroupies sur deux bancs en train de dormir. Et ils disaient, mais ils nous parlaient. Nous, on ne comprenait pas, Et là, on regarde nos montres. Bien sûr, on n'a pas entendu nos réveils. Et on voit qu'on a 5 minutes pour arriver à la gare pour prendre notre train. Et là, je dis, les filles, si on loupe ce train-là, c'est la cata. Genre, on va louper le train à Milan. Et là, ça devient encore plus... Sachant qu'on n'a pas de l'argent. Moi, je me souviens, il me restait quelque chose comme 75 euros. Parce que nous, on avait avant pris nos billets de train. On avait tout bien calculé. Les hôtels étaient déjà prépayés. Et du coup, là, on prend nos affaires. Ma pote, elle avait enlevé ses chaussures. Et elle court en pieds nus. Pour arriver, on a eu le train. Heureusement, il était en retard de 5 minutes. Et on rentre dans le train et tout le monde nous regarde de haut en bas. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Ces filles habillées comme ça. Et du coup, on n'avait pas trouvé notre wagon. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Là, il y a le contrôleur qui vient. Italien. On était bien sûr dans le mauvais. Ils nous parlent, nous on explique qu'on a un allèle loupé. Ils disent, vous descendez à la prochaine gare et vous allez à la bonne place. Du coup, nous, on comprenait pas. Et là, elle avait un monsieur, c'était un homme d'affaires. Il est avec un costume, il est venu expliquer qu'encore une fois, qu'on en descend à la prochaine gare, qu'on remonte dans le bon truc, sinon on allait avoir une amende. Du coup, on fait ça. On arrive à Milan, on a le train pour Milan. On arrive à Paris et de là on s'est dit, mais les filles, la prochaine fois où on va quelque part, on apprend un peu la langue, parce que c'était la grosse catastrophe. Rosa da vedere, rosa da sognare, rosa da volere, rosa da strappare, rosa da vestire, rosa da spogliare, rosa da capire. Prigionare, rosa da impazzire, rosa da implorare, rosa da fuggire e da ritrovare, e se c'è una rosa tonda di più.
Vieni a piantare una rosa.